L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bienvenue dans la JT du local de ce vendredi 12 mars. Vous écoutez toujours évidemment l'autre radio. Vous êtes dans cette émission quotidienne que j'anime avec Claire. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct à Laval. Il fait beau ce matin, ça fait plaisir.
Et on partage le soleil aussi ici à Château-Gontier. Ah, alors je ne sais pas si ça va durer puisque la Mayenne est toujours en vigilance jaune pour les vents et les orages pour cet après-midi. Mais en tout cas, pour l'instant, on profite du soleil ce midi. On va parler dans cette édition de la JT du local, des samedis des archives avec une nouvelle conférence, et première peut-être puisque les autres avaient été reportées ou annulées, en tout cas, qui a lieu demain. On en parle justement avec le directeur des archives départementales. Vous le savez, depuis le début de la semaine, on vous parle de différentes associations qui font partie du collectif Unissons nos différences. Mais qu'est-ce que c'est que ce collectif? On va détailler un petit peu tout ça lors de l'interview. Et puis enfin, vendredi, cinquième et dernier jour, en tout cas de cette semaine d'émission, donc dernier jour aussi de notre feuilleton sur la restauratrice de tableaux Fanny Chauvet, qui va nous parler d'un tableau en particulier à l'histoire assez étonnante, vous l'entendrez, celle du tableau de Sauge.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, vous les attendez peut-être avec impatience, de nouveaux créneaux de vaccination vont être ouverts en Mayenne.
Dès aujourd'hui et dans les prochains jours, ils sont destinés aux personnes de 50 à 74 ans avec comorbidité et aux personnes de plus de 75 ans. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone via la plateforme départementale au 02 43 53 53 00. Accessible de 8h à 18h en semaine et de 8h à midi le samedi ou bien sur doctolib.fr.
La circulation du virus s'accélère en Mayenne et dans la région.
Le taux d'incidence s'établit à 110 pour 100 000 habitants, c'est 18% de plus que la semaine dernière. Pour le docteur Pierre Blaise, le directeur scientifique de l'ARS, même si une lassitude peut se comprendre, ça vaut le coup de tenir. On réussit collectivement à faire mentir les modélisations. Fin de citation. Il appelle à limiter les interactions entre les bulles sociales, entre la famille, les amis, les collègues. La vaccination en parallèle, elle, se poursuit. Plus de 32 000 Mayennais ont déjà reçu au moins leur première injection.
Un ancien élu mayennais condamnant à un an de prison ferme.
Cet ancien prof et conseiller municipal dans le Nord Mayenne aurait échangé des messages et des photos à caractère sexuel avec des mineurs âgés de 12 à 16 ans. Au tribunal de Laval hier, l'accusé regrette et parle d'engrenage infernal. Il a donc été condamné à un an de prison ferme et interdit d'exercer toute activité avec des mineurs pendant 10 ans.
La transmission au cœur des débats à la Chambre d'agriculture de la Mayenne.
Avec un constat, on comptabilise une installation pour deux départs en 2019 dans le département. Outre le vieillissement de la profession, sont aussi pointés du doigt l'image parfois ternie du métier ou encore la non-adéquation entre les exploitations à céder et les profils des candidats à la reprise. La Chambre d'agriculture de la Mayenne et le Conseil régional se fixent comme objectif de porter le taux de renouvellement à 65% à l'horizon 2027.
Laval Virtual organise son plus grand salon en ligne ce vendredi et samedi.
30 000 personnes sont attendues au Virtual Nautique, le salon de la Fédération des industries nautiques. Visite gratuite sur virtualnautique.com. Ce vendredi, vous avez jusqu'à 21h et demain de 10h à 19h.
Le festival À Travers Champs annule ses soirées.
C'est une information de nos confrères du Haut-Anjou. Les organisateurs du festival viennent d'annoncer ce vendredi l'annulation des soirées des 19 et 20 mars prochains du festival À Travers Champs de Cossé-le-Vivien. On en a parlé en tout début de semaine de ce programme qui était prévu. Ils n'ont malheureusement pas eu l'accord des autorités pour des raisons sanitaires. Mais en revanche, les spectacles et les interventions en milieu scolaire sont, elles, maintenues.
Un défilé à moto pour l'égalité femmes-hommes.
L'événement est bien maintenu, lui, ce dimanche, organisé par l'association Tout en Moto 53. L'accueil des participants se fera dès 13h sur le parking du Leclerc, route de Tours à Laval, pour un départ prévu à 14h. Les motardes et motards sont les bienvenus. Les profits récoltés seront reversés à l'association Femmes Solidaires 53, qui agit pour l'égalité des droits des femmes. Ce week-end aura lieu également l'atelier de place au vélo pour apprendre à réparer sa bicyclette. Ce sera demain, samedi, de 10h à midi, chez Bicyclem, au 46 rue du Lieutenant à Laval. Inscription obligatoire au 06 02 09 25 06.
Nouvelles portes ouvertes de l'UCO ce samedi.
L'Université catholique de Laval propose de découvrir ses 9 formations en distanciel demain. Au programme le matin, des entretiens avec les responsables de formation ou étudiants sur rendez-vous. Et de 14h à 15h30, 4 sessions en visio pour découvrir les licences d'histoire, d'infographie et médias interactifs, d'économie et gestion ou encore d'information communication. Inscription obligatoire sur le site de l'UCO à Laval.
Et pour le foot, le match du stade Lavallois reporté.
Et oui, à nouveau, à cause de la Covid-19, le stade Lavallois devait accueillir le leader Bastia demain samedi au stade Francis Lebasser. Mais plusieurs cas positifs à la Covid ont été détectés parmi les tangos et les membres du staff. La rencontre est donc reportée à une date ultérieure.
À la une du Haut-Anjou, la future production de cacahuètes bio en Mayenne.
Ce sera une première dans le département et elle aura lieu à Housset. Thibaut et Jean-Marie Gigant planteront des semences de cacahuètes bio au mois de mai prochain. Après le houblon, la diversification de leur culture se poursuit. Une fois récoltées, ces cacahuètes serviront pour la consommation humaine, donc pour manger pour nous, mais aussi pour la fabrication de l'huile d'arachide. Pour les soutenir dans ce projet, une cagnotte a été mise en ligne. Vous retrouverez tous les détails en page 2 de votre journal. L'actualité dans le Haut-Anjou, c'est aussi la sonnette d'alarme tirée par les associations d'aide à domicile. À retrouver donc l'interview de Christine Auchet, la présidente de l'ADMR en Mayenne. Elle souligne les difficultés de recrutement pour les aides à domicile, avec une 50aine de postes à pourvoir dans le département. En parallèle des besoins qui grandissent, de plus en plus de personnes âgées restent chez elles. Ça demande une revalorisation du métier, notamment au niveau du salaire. Et puis plus léger, une exposition à l'air libre, une véritable bouffée d'oxygène proposée par l'artiste Charles Péniquin. Visible jusqu'au 13 avril sur les grilles de l'hôpital de Château-Gontier, quai du docteur Lefebvre, ce sont des portraits d'habitants du territoire avec forcément le point de vue de l'artiste qui a rencontré ces gens, les a écoutés, dessinés, parfois même enregistrés, ce qui donne des portraits aussi drôles qu'émouvants parfois, avec un aperçu justement en illustration de l'article. Et puis, on en parlait en tout début d'émission, retour demain des samedis de l'histoire, organisé par les archives départementales et par la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne. Et à cette occasion, Claire, tu t'es adressée assez justement, à un archiviste.
Et oui, c'est ça, j'ai pu rencontrer Cyril Deidé, directeur des archives départementales de la Mayenne, et donc, on l'a compris, archiviste, qui nous explique l'origine de ce cycle de conférences.
On conçoit notre métier comme sélectionner l'information qui peut intéresser les chercheurs et permettre aux chercheurs d'accéder à l'information qui les intéresse. Nous étions clairement identifiés comme un service de conservation du patrimoine, mais nous souhaitions jouer pleinement notre rôle de service de diffusion de la connaissance plutôt que de créer une nouvelle offre qui éventuellement serait un peu proche de ce que faisait la SAHM. Nous avons décidé de travailler ensemble. On travaillait déjà ensemble sur d'autres dossiers. Et donc l'idée, ça a été d'organiser ensemble un cycle de conférences, mais qui se voulait le plus large possible. Et donc, ça couvre des champs disciplinaires qui sont très larges. L'histoire générale, l'histoire religieuse, l'histoire de l'art, l'histoire des techniques, la géographie, les voyages, la musique. On voulait qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. Alors évidemment, quand on a lancé pour la première fois ce cycle de conférences, donc c'était en janvier 2020, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et finalement, le public a répondu présent, puisque sur les séances organisées en 2020, on a eu jusqu'à 150 personnes qui venaient assister un samedi après-midi à nos conférences. Ça prouve que notre proposition répond à un besoin. La prochaine conférence aura lieu le 13 mars, et donc elle sera donnée par Gérard Morteveille, qui a été responsable du musée de l'Auditoire à Sainte-Suzanne et qui va nous parler d'un sujet sur lequel il travaille depuis longtemps, dont il est l'un des grands spécialistes en Mayenne et même plus largement en France. Ce sont les supports d'écriture. Parce qu'évidemment, on connaît les supports actuels comme le papier, on connaît des supports plus anciens comme le parchemin. Et les études de Gérard Morteveille permettent non seulement d'envisager d'autres supports, le papyrus et d'autres encore, mais aussi de voir comment les techniques de production de ces supports ont eu une influence sur la manière dont on a pu pratiquer l'écriture. Et le 10 avril, Hervé Gérolami, qui est un historien bien connu des Mayennais, qui contribue régulièrement à l'écriture de l'histoire, lui nous racontera une aventure absolument pittoresque, qui est celle du navigateur lavallois François Pirard. Donc c'est un personnage, François Pirard, du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, qui a littéralement parcouru le monde, puisque on le croise au Brésil, on le croise en Inde, on le croise évidemment en France, à Paris, à Laval. Donc c'est vraiment un Mayennais, et en même temps c'est vraiment un navigateur. Et donc Hervé Gérolami, le 10 avril, nous amènera sur les pas de François Pirard à travers ses différents voyages.
Si vous êtes intéressé par ces conférences, rendez-vous sur le site des archives départementales 53 pour vous inscrire via un formulaire. Attention, il reste quelques places pour demain à partir de 14h30.
Merci Claire, en tout cas, on a bien noté. Et depuis cette semaine, donc, on vous présente chaque jour une association faisant partie du collectif Unissons nos différences. Mais plus précisément, qu'est-ce que c'est donc que ce collectif ? Réponse dans 3 minutes après Nos Stress de Deluxe.
Quand y'a les chiffres de la boisson sucrée, Kier, étant l'adepte du no stress, accepte que par notre musique on y accède. Quand le monde s'écroule, zen attitude, jette la chemise, que le show continue. En cas de laisser aller, on te pourchasse. Tu seras belle, même si t'as de la moustache. Tu voulais pas le sourire, on a le truc. Pour adoucir la vie, faut plus d'une astuce. Des coccinelles tirent ma diligence. Sans dire adieu, je me tire d'urgence. Avec de luxe, y'a de l'amour. J'suis avec ma guitare en bas de la tour. Baisse-toi, espèce d'enfoiré.
C'était Oxmo Puccino avec Deluxe, évidemment, sur ce titre No Stress sur l'autre radio. Vous êtes toujours dans la JT du local. Et si vous nous écoutez depuis lundi, vous le savez, nous avons dressé un petit panorama de quelques associations qui font partie du collectif Unissons nos différences à l'occasion des semaines d'éducation contre les discriminations en Mayenne. Et aujourd'hui, on va justement évoquer un peu ce collectif UND, donc Unissons nos différences, de manière plus globale avec son coordinateur François Ilan, avec une première question, tout simplement, comment s'est-il créé ?
Le collectif est né vraiment en 2015 suite aux événements, aux attentats qui ont eu lieu. En fait, il y a une grosse mobilisation en fait de l'ensemble des acteurs, en tout cas sur le territoire mayennais. Et puis suite à ça, il a eu l'idée de se dire, bah, on est peut-être plus de force à plusieurs que d'être chacun dans son coin à lutter contre un petit peu. Enfin voilà, ses propres discriminations, si je peux me permettre l'expression. Et donc l'idée c'était de se fédérer et de se dire, bah voilà, ensemble on ira peut-être un petit peu plus loin aussi, on aura un petit peu plus de force et plus d'impact aussi dans ce qu'on va pouvoir mener. Et puis c'est aussi l'occasion de, pour toutes ces structures aussi, de se rencontrer, de pouvoir discuter, d'échanger, de pouvoir aussi imaginer des projets communs, et c'est tout ça en fait qui fait vraiment la force de ce collectif UND. Donc je dirais que maintenant, voilà, ça fait 7-8 ans vraiment que le collectif est très actif sur le territoire mayennais.
Et il regroupe qui plus concrètement ?
Alors il regroupe une vingtaine d'associations en fait. On va retrouver associations ou des structures, alors je peux en citer quelques-unes. On va retrouver la Ligue des droits de l'homme, Femmes solidaires, on va retrouver l'UDAF, l'Union départementale pour l'association des familles. On a aussi l'autre radio, bien sûr, qui est un, voilà, un partenaire incontournable, la Ligue de l'enseignement, puisque voilà, on coordonne le dispositif. Voilà, je ne vais pas tout se citer, mais voilà, on retrouve diverses en tout cas associations ou structures partenaires de ce collectif.
Et donc, vous l'avez dit, des associations, des structures qui agissent auprès de publics différents. Et alors là, l'intérêt de se regrouper, justement, quel est-il ? Sachant que chacun a ses actions de son côté qui sont complètement différentes.
C'est ça. Chacun ses actions, je dirais, tout au long de l'année. Et la force un petit peu du collectif, c'est de se retrouver au mois de mars pour ces semaines de lutte contre les discriminations, d'éducation, parce que le mot est important. Et là, c'est de se retrouver justement ensemble. Voilà. Et donc, du coup, d'imaginer des projets communs. On a eu un projet commun parce qu'on a lancé un petit peu ces semaines, là, samedi dernier, avec le défi des personnalités, qui a eu lieu sur Facebook, parce que vous le savez, enfin, tu le sais comme moi, qu'avec les conditions sanitaires c'est compliqué, donc du coup voilà, on adapte aussi un petit peu la programmation, mais voilà, c'est vraiment se dire, eh ben, on imagine ensemble au mois de mars des choses communes. Ça va de alors là, je vais citer des choses qui n'ont pas forcément lieu ce mois-ci, mais en tout cas voilà, ça, mais des ciné-débats, il y aura des expositions, il y aura voilà, on voulait travailler sur la journée du 21 mars, hein, voilà, il y a pas mal de choses qui ont lieu. Alors là, après, pour rebondir un petit peu sur ce mars 2021, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement les conditions sanitaires ne nous permettent pas de se retrouver tous ensemble sur des événements, voilà, c'est compliqué. Donc on a créé un site internet du collectif. Ça a été la volonté en tout cas du collectif, parce que jusqu'au dernier moment en fait le collectif s'est dit, est-ce qu'on va au bout, est-ce qu'on continue à programmer. Puis on s'est dit, non, à un moment faut vraiment prendre les, enfin faut être sérieux, en tout cas on pourra pas programmer tout ce qu'on souhaite. Donc du coup on s'est dit, on va créer un site internet qui sera la vitrine du collectif. Donc c'est collectif-und.fr.
Et donc c'est là où justement on peut voir ce qui est maintenu, ce qui est malheureusement annulé, en tout cas comment ça évolue tout ce programme.
Exactement, c'est en fait, on invite les gens du coup concrètement à aller sur ce site-là régulièrement, et puis c'est là où on va dire, bah tiens, il y a peut-être des choses qui vont se remettre en place, des choses qui vont s'inventer aussi là maintenant, parce que les gens vont se croiser et puis vont vouloir faire quelque chose. Mais c'est là en tout cas qu'on a tout le programme, ouais, et qu'on va être actif en tout cas pour les choses qui s'annulent. Alors vous verrez bien, pour ceux qui vont sur le site, c'est qu'on a souhaité mettre toutes les actions, même celles qui étaient annulées ou reportées, parce qu'on voulait aussi montrer la force de ce collectif et dire que bah voilà, il y avait quand même une vingtaine de propositions faites pour le mois de mars. Malheureusement, il n'y en aura peut-être que 4 ou 5 qui vont avoir lieu, mais en tout cas, il y a aussi des choses qui vont être reportées, et je pense qu'on aura peut-être un petit mois de mars en octobre, puisque du coup, pas mal de choses se sont reportées en octobre, donc peut-être qu'on aura un petit peu ces semaines-là qui se retrouveront au mois d'octobre.
Un mois de lutte contre les discriminations qui se poursuit peut-être.
C'est ça, ouais.
Enfin, certainement même en octobre.
Exactement, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a de maintenu du coup ? De quoi est-ce qu'on peut quand même parler parmi les quelques actions qui sont maintenues ?
On va en parler d'une qui me tient à cœur, parce que c'est l'association Les Possibles, avec une exposition qui s'appelle Femmes de l'ombre, Femmes de lumière, qui est une superbe exposition, qui a été inaugurée d'ailleurs au début de semaine, là, voilà, lundi dernier. C'est une exposition en fait qui met en avant en fait des femmes de lumière, des femmes connues du département, des personnalités, et aussi des femmes de l'ombre, des gens qui œuvrent aussi au quotidien, qui peuvent être bénévoles dans un centre social ou dans des structures associatives. Et déjà d'une, les photos sont magnifiques, ça met en avant toutes ces femmes qui sont importantes pour le département, et ça c'est très chouette. Et puis c'est visible du coup sur, voilà, sur la façade en tout cas des Possibles à Mayenne. On va retrouver aussi des choses, alors du coup elle sera possible aussi sur le site internet, je précise, puisque du coup il y aura une vidéo faite de cette exposition qu'on pourra retrouver sur le site UND. On va retrouver aussi une exposition qui est faite par l'AMAV, l'association mayennaise d'action pour les gens du voyage. Ça a été fait par des jeunes. Ils ont fabriqué en fait des slogans et des affiches en fait, et ils vont les placarder là partout sur la ville de Mayenne et la ville de Laval. On va les retrouver un peu fleurir sur tous les panneaux d'affichage, voilà, de ces deux villes là. Donc c'est plutôt sympa. Après, faut aller voir, faut pianoter. Effectivement, je parlais tout à l'heure de ciné-débat. On se pose la question peut-être d'en maintenir deux fin du mois. Là, on est en train d'en discussion parce que, alors moi j'ai appris ça, je ne savais pas, mais on peut maintenir des séances de ciné avec des vrais cinémas, mais en virtuel. Voilà, on paye sa séance et du coup on va sur internet et donc du coup après on regarde son film et on se retrouve dans une salle pour débattre ensuite. Donc voilà, on est en train de creuser cette piste-là, on essaye de voir si c'est réalisable. Au pire, c'est pas possible, on repoussera de toute façon ce que je disais tout à l'heure pour le mois d'octobre.
Tout est fait en tout cas pour quand même maintenir une programmation et des événements et parler de ce sujet. Justement, on sent que vous avez tout fait pour jusqu'au bout essayer de maintenir, parce que c'est vraiment un thème qui tient à cœur forcément de toutes ces associations, de tout ce collectif.
Ouais, c'est bien important. Enfin, tous ces gens-là, ils sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'il y a une vraie lutte derrière, c'est un vrai combat. Il y a encore besoin de ce combat-là, malheureusement. C'est-à-dire que je pense que tous ces gens qui sont dans ces assos, ils préféraient peut-être militer pour autre chose que. Mais en fait, non, il y a toujours besoin en tout cas d'avoir ces assos du type femme solidaire, encore la place de la femme, hein. Enfin, il y a encore un vrai combat mené dans le monde en tout cas. Voilà, il y a aussi la Ligue des droits de l'homme, on sait aussi avec tout ce qui se passe. Enfin, voilà, je ne vais pas tout citer tout le monde, mais chaque asso a vraiment son identité propre et effectivement, et malheureusement peut-être, elles sont encore, elles ont besoin d'être présentes et d'autant plus de se fédérer en collectif, quoi. C'est pour ça aussi que le site internet est intéressant, c'est qu'on va aller plus loin. Donc là, on le disait tout à l'heure, on pourra regarder la programmation des semaines d'éducation contre les discriminations, mais on a aussi fait tout un onglet sur les lois, sur toutes les sortes de discriminations. On peut retrouver aussi ce que c'est qu'une discrimination, combien de types de discrimination, il y en a 25, voilà, et donc quel type de discrimination on peut vivre. Et c'est aussi un outil aussi pédagogique pour des jeunes qui peuvent souffrir aussi de discrimination. Et bien parfois ça peut être, ça peut être en tout cas, on l'espère, un outil, une première porte d'entrée pour peut-être ensuite contacter du coup ces associations-là.
Et vous parliez du 21 mars tout à l'heure, pourquoi c'est une date importante ?
Du coup, il y a deux dates importantes, je dirais, dans les semaines. On va parler de celle du 8 mars, parce qu'elle nous tient aussi à cœur. C'est la journée du droit des femmes, en fait, la journée internationale du droit des femmes. Et donc là, je pense à tout ce qui est mis en place, en fait, qui a été mis en place, du coup, en début de semaine. Et voilà, donc c'est important. Et puis, avec ATD Carmonde, du coup, sur le 21 mars, on souhaitait mettre en place, du coup, là, c'est important, la journée de lutte contre le racisme, en fait, c'était vraiment essentiel, avec les trois mondes aussi, j'oublie pas tout le monde. Et puis, la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Voilà, c'était la journée de lutte contre le racisme. En fait. Et donc ça c'est essentiel, c'est important, le 21 mars on peut pas ne passer à côté, c'est aussi pour ça qu'ont été créés au mois de mars ces événements de lutte contre les discriminations.
Engagés sur ce sujet forcément les associations que nous avons déjà interrogées, mais aussi l'UDAF qui s'est investi dès le début dans le collectif.
Bonjour, donc je suis Odile Gombeau, présidente de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Voilà, et nous faisons partie de ce collectif dès le début d'ailleurs, parce que nous considérons que ça rentre parfaitement dans nos missions et dans nos valeurs. C'est-à-dire que nous sommes, comme tout le monde, je pense qu'on le sait, apolitiques et non confessionnels. Et pour nous, toute discrimination est à prendre en considération, toute personne qui est touchée, et nous luttons dans toutes nos représentations, aussi bien auprès des pouvoirs publics que dans les instances comme la CAF, etc., la MSA, la Sécurité sociale, également pour le handicap, on est très impliqués dans le domaine de la santé, et pour nous, il ne doit pas y avoir de discrimination, il doit y avoir un respect de toutes les différences. Et c'est pour cela que nous faisons partie de ce collectif. Pour nous, c'est très important, et quels que soient les... puisque l'UDAF représente, doit être à l'écoute de toutes les familles du département, pas simplement nos adhérents, mais toutes les familles. Donc toutes les familles, on doit accepter les différents modes de vie. Et voilà, et pour nous, c'est très important d'être dans ce collectif, parce qu'on connaît d'abord, on travaille avec les autres associations, et puis voilà, on peut faire peut-être petit à petit changer un peu, changer les mentalités, si on peut dire. Ce qui n'est pas facile, hein. Alors, ce que nous faisions, là, c'était les ciné-débats. On en avait déjà fait l'an passé, enfin, avant le confinement. Là, on a bien l'intention, il y avait un ciné-débat sur le harcèlement scolaire. Et donc, on espère pouvoir, quand même plus tard, le mettre en place. Et puis, on travaille beaucoup aussi. On a créé depuis trois ans, un groupe de parents solos. Et ça aussi, ils souffrent souvent de discrimination. Et donc, pareil, on avait des actions en présentiel, en concrète à faire avec eux. Elles sont reportées, mais on va essayer quand même de les réunir par petits groupes. Essayer de quand même, parce qu'ils sont les gens sont très demandeurs aujourd'hui de contact. Puisqu'ils se sentent depuis un an complètement isolés. Tous les mois, maintenant, on a créé les rendez-vous de l'UDAF. Alors, les rendez-vous de l'UDAF, ça, c'est par... c'est pareil, ça devait être en présentiel, mais maintenant, on le fait en visio. et sur des thèmes qui concernent les familles. Et par exemple, on a fait récemment, le mois dernier, sur le surendettement. Et là, on fait prochainement sur l'aide aux tuteurs familiaux. Parce que là aussi, les personnes qui sont sous mesure de protection ou qui vont l'être, ça peut être une forme de discrimination. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Quand on pointe du doigt, surtout, nous sommes dans un milieu... On est dans un département rural. Et par le... Enfin, j'espère que c'était par le passé, mais ça peut encore se produire. On pointait du doigt dans les villages. Ah, cette famille-là ou cette personne-là, elle est sous tutelle. Et c'était une forme de discrimination. On lutte depuis longtemps. Moi, depuis que je suis présidente, et il y a fort longtemps, je lutte contre cela. C'est très important qu'on ne marque pas les personnes de par un comme ça. Celle-là, il est sous tutelle. Celui-là, il est sous curatelle. Celui-là, voilà. Ça, c'est très important pour nous. Voilà, merci.
La lutte contre les discriminations, c'est justement le champ d'action de Sébastien Buron à la ville de Laval, qui soutient ses semaines d'éducation sur le sujet.
Donc Sébastien Buron, conseiller municipal aux luttes contre les discriminations. Donc nous avons la chance en Mayenne et en particulier à Laval d'avoir un grand nombre d'associations, donc en particulier sur les thèmes des discris. Quand même intéressant, c'est qu'elles sont complémentaires, solidaires et très dynamiques. Et la municipalité, elle reste vraiment à disposition des associations donc pour soutenir leurs projets. Dans un premier temps, on est là vraiment pour soutenir les associations, leurs projets, être à leur écoute, que ce soit voilà, par rapport à des locaux, par rapport à là, apparemment, surtout à la crise financière, aux conditions, à l'accompagnement, voilà. Moi et Camille Pétron qui sont en lutte contre les discriminations, mais on va travailler vraiment en parallèle avec Madame Lemuc Lavrol qui est aussi à l'éducation. Donc on va essayer de travailler vraiment en parallèle pour travailler sur tout ça. Voilà, comment accompagner les écoles, comment la prévention, l'éducation. Voilà, essayer de faire changer nos mentalités parce qu'on sent que voilà, même en Mayenne, ça reste quand même assez fragile et il y a beaucoup de choses à travailler. Donc voilà, on est une équipe motivée pour lutter contre les discriminations. La ville de Laval donc là, a recruté récemment un nouveau chargé de mission qui va pouvoir accompagner en particulier les événements et travailler sur la campagne de sensibilisation. Je pense qu'il va être important qu'on refasse aussi un état des lieux, voilà, des questionnaires et revoir sur quel thème il va vraiment falloir travailler et puis quelles actions on va mener, quoi.
Merci à Anthony pour ces deux dernières interviews. Les semaines d'éducation contre les discriminations se poursuivent tout au long du mois de mars, avec sans doute quelques reports en octobre prochain. Toutes les infos à retrouver sur collectif-und.fr. Et on revient d'ici trois petites minutes après Daphonix avec John Dope. I woke up refreshed, relaxed, ain't got no monkey on my back. So I get down, do the boogaloo, sunglasses on all day through. Ain't no stressful time, yo, that's my steez, so that's why.
Check this out.
I like to waste my time, yeah, 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 while others huffin', I'm puffin' on the sweet life. Touched by the sun, sweet sensation. All is good, I got a mellow mind. Ain't got no stressful time. So clap your hands if you're down with the vibe. Say yes if you're living your life. Clap your hands if you're down with the vibe. No stress, no stressful times. I like to waste my time. Yeah.
Yeah. Yo, stressed and blessed with no such thing. Glide through skies like I got wings. Fly with the bombs, hitting the Alpine. That's peace of mind. What a vibrant thing. Yup, the vibe I'm in. Vitalizing like vitamins. Energizing the positive. 9 to 5, spent high fiving kids. While this music I pioneer. Recline, excellence. A mood cries like an exodus. It's all part of my design. When scorching, shades on when it's shining. So common sense. Like y'all are party while auditing them. The phonics with the dopeness here. Yo, JD, what the chorus is.
So clap your hands if you're down with the vibe. Say yes if you're living your life. Clap your hands if you're down with the vibe.
No, 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 no,
no. No stress, no stressful times. I like to waste my time.
Yeah.
Service civique en portrait et témoignage, c'est ce qu'on vous propose tous les vendredis midi dans l'AJT du local, en partenariat avec d'autres radios associatives ligériennes. Et aujourd'hui, le reportage est signé RCF Sarthe, qui est parti à la rencontre d'Amélie Lelon en service civique au sein de l'association Sarthe Nature Environnement.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
La structure Sarthe Nature Environnement accueille Amélie en service civique depuis septembre 2020. Elle raconte son intégration au sein de Sarthe Nature Environnement. Arrivée dans un contexte particulier avec la pandémie du coronavirus, elle raconte son intégration au sein de cette structure.
J'ai très bien été accueillie, je suis très bien entourée, je suis très à l'aise maintenant au sein de l'équipe et je sais que si j'ai une question ou quoi, un problème, je peux m'adresser à eux.
Passionnée par l'écologie et l'environnement, Amélie a décidé de faire une pause dans ses études pour découvrir le monde associatif.
J'ai décidé de faire un service civique parce que pour moi, c'était la meilleure alternative pour continuer à être actif et continuer à me former. Et ensuite, Sarthe Nature Environnement, je connaissais déjà avant et je suis passionnée par l'environnement. Donc pour moi, ça a été un peu une évidence de postuler ici. J'ai un projet de reprendre mes études après en master en agroécologie. Donc c'est une expérience en plus sur mon CV et pour ma future carrière professionnelle.
Engagée pendant 8 mois, Amélie arrive à la fin de sa mission. Elle porte un regard critique sur son expérience du dispositif de service civique, notamment sur l'indemnisation.
C'est vrai que le montant de l'indemnisation, ça peut être assez insuffisant pour certaines personnes. Après, moi, je suis chez mes parents, donc c'est vrai que j'ai aussi cet avantage de pouvoir économiser. Mais après, c'est vrai que ça reste un peu faible comme indemnisation.
Elle envoie un message aux plus jeunes qui pourraient être tentés par le service civique.
Ça peut leur permettre d'avoir un peu plus confiance en eux s'ils ne sont pas très à l'aise dans le milieu professionnel et aussi de prendre le temps de réfléchir à son parcours professionnel.
Au-delà du salaire, c'est aussi l'opportunité de tester quelque chose de nouveau, comme l'explique Amélie.
Alors là, maintenant, parce que c'est vrai que ça fait plus de la moitié de mon service civique, ça me permet vraiment de rester actif et d'avoir un lien social, surtout en ce moment avec la pandémie. Et je continue vraiment à me former. J'apprends énormément de choses sur plein de sujets, et ça me permet aussi de prendre un peu plus confiance en moi pour l'avenir, et ça valorise aussi le CV, donc c'est vrai que c'est un tremplin pour l'avenir.
Le service civique offre aussi des avantages intéressants pour les jeunes comme Amélie en recherche d'expérimentation professionnelle avant de reprendre le chemin de l'université.
On est assez libre, donc au niveau de notre organisation, de si on veut découvrir d'autres choses. On a les mêmes avantages que les étudiants, donc on a une carte qui prouve ça. Donc au niveau des tickets de transport, des accès au cinéma, au musée, même si en ce moment, plus trop d'actualité.
Ses responsabilités sont multiples au sein de l'association environnementale. Très motivée, elle revient sur ses missions dans la structure.
Pour moi, ma mission, c'est je suis en charge de la coordination du programme associatif de 2020, donc là qui est sur le thème de l'arbre. Donc j'organise en fait, tous les mois, il y a une action. Et donc je suis en charge de ces actions. Donc ça peut être des ciné-débats, des visioconférences, des sorties nature. On a le concours photo et je participe aussi à la vie associative de l'association.
Très heureuse de son choix, Amélie s'épanouit avec toute l'équipe de Sarthe Nature Environnement. Sa mission aura évolué, faute de confinement. À quelques mois de la fin de sa mission, elle continue d'apprendre au quotidien.
J'ai essayé de m'adapter et je me suis notamment tournée vers la communication. Donc pour amplifier la communication, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça a un peu transformé ma mission, mais bon, fait avec et au moins bah, je serai marquée par mon service civique.
Merci à Amélie. On se retrouve prochainement pour un nouveau reportage sur le dispositif du service civique. Au revoir.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. En partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Une nouvelle pastille autour du service civique à découvrir évidemment vendredi prochain. Et toutes les autres, toujours en podcast sur notre site internet. Nous sommes vendredi, cinquième et donc dernier épisode au milieu des chevalets, des pinceaux et des tableaux anciens. Fanny Chauvet est conservatrice restauratrice de tableaux à Bouessé, au sud-est du département. Installée là depuis 9 ans, elle s'est occupée de nombreuses œuvres et parmi elles, un tableau confié par les élus de la commune de Sauges à l'histoire assez originale.
Oui, en fait, il avait été stocké là il y a très longtemps. Et en fait, il avait été enlevé de son châssis, puis plié, et puis déposé dans le grenier de la mairie. Sauf qu'après, bah, personne n'a donné l'information. Et du coup, à chaque fois que les élus allaient dans le grenier, ils s'essuient les pieds là-dessus, en fait. Heureusement, ils ont quand même, à un moment donné, ils ont vu qu'il y avait de la peinture. Et là, c'était quand même un petit peu angoissant pour eux de découvrir ça. Mais en même temps, ils n'y étaient pour rien. Enfin voilà, on ne peut pas savoir non plus. C'est un tableau, donc c'est les pèlerins d'Emmaüs, en fait. C'était d'après une copie de Titien. Alors, c'est un tableau donc, qui est quand même une copie inspirée d'eux. Donc, elle est quand même un peu différente. Mais c'est cette différence aussi qui lui a permis d'être protégée et du coup, d'obtenir des subventions pour aussi être restaurée. Parce que dès que les tableaux sont soit inscrits, soit classés, donc dès qu'il y a une protection, ils peuvent être aidés à la fois par le département et par la région pour être restaurés. Surtout sur des tableaux comme ça, au niveau des heures, c'est beaucoup d'heures. Parce que voilà, là, par exemple, j'ai eu énormément de reconstitutions... Ma cicatrice retouche, c'était énorme. Il y avait beaucoup de manques et tout. Alors, il y avait un petit manque, il y avait un petit chien sous la table. Alors, c'était chouette parce que j'ai pu m'inspirer pour le coup. Là, j'ai reconstitué la partie du museau parce que je me suis inspirée du tableau de Titien. Non, ça ne m'a pas inquiétée parce que j'ai vu que justement, ce qui était bien, c'est que pour moi, c'était une toile aussi assez ancienne aussi. Et sa qualité de départ au niveau des matériaux a fait qu'elle a quand même bien résisté dans le temps. Donc c'est vrai, quand on l'a vu, il y a plein de petites écailles au-dessus qui se baladaient et tout, c'était quand même assez catastrophique. Je voyais déjà aussi qu'est-ce qui allait être reconstituable. Et... Bah, c'est vrai que maintenant, ils sont contents, oui, du coup, dans l'église et tout ça. Il y a eu un cadre aussi qui a été fait pour lui et tout ça, qui a été doré aussi. Du coup, j'en ai un autre à restaurer pour eux, donc c'est que ça, ils ont dû être contents. Donc là, en ce moment, j'ai un Saint-André pour eux aussi, qui est 18e. Alors, je n'ai pas beaucoup de tableaux 18e. Donc je suis contente d'en avoir un. En plus, il est signé et daté. Donc c'est vrai que de suite, ça donne plus de valeur aux œuvres. Souvent, les œuvres en fait, des monuments historiques dans les retables, la plupart du temps, elles ne sont pas signées. En fait, hein. La plupart de ces œuvres ne seront pas dans un cadre muséal. Donc elles seront dans des églises. Et puis, bah, dans les églises, il y a des églises où le climat varie beaucoup, aussi bien l'humidité que la température. Des fois, il y a des chauffages, il y a des églises qui sont chauffées. Enfin, ce qui est mauvais pour les tableaux, c'est vraiment les gros changements de température et d'hygrométrie. On essaie toujours de quand même mettre des consignes aussi, de donner des consignes après une fois qu'on remet en place les tableaux. Il ne faut jamais mettre aussi un tableau près d'une source de lumière ou de chauffage ou de choses comme ça, parce que voilà, bah oui, c'est logique aussi. Chauffage, ça ne fait pas toujours du bien. C'est bien pour les personnes qui vont à l'église, mais un peu moins bien pour les tableaux et les œuvres qui y sont, voilà. Il faut aussi comprendre que ça reste quand même des lieux vivants, quoi, voilà, qu'on continue à aller dans les églises, dans tous les cas, que ce soit pour le culte ou pour voilà, l'art. Et puis, de plus en plus, les communes et puis les conservateurs aussi, quand même, font attention, justement, parlent plus de la conservation. Il y a plus des gens aussi dans les communes qui savent déjà un petit peu comment procéder. Et puis, voilà, appeler quand même les personnes aussi dont c'est le métier. Parce que, voilà, aussi, des fois, il y a des catastrophes qui arrivent. Voilà, on a entendu parler aussi de personnes qui, voilà, croyant bien faire, bah, font des choses qui sont... ou mettre des petits coups de chiffonnette sur les tableaux. Il y a des choses, voilà, des choses, c'est pas forcément gênant, et des choses, ça va être pas terrible pour l'œuvre.
On se retient donc de donner un petit coup de chiffon sur les œuvres anciennes restaurées, si on veut bien les conserver. Tous les épisodes de cette série avec la restauratrice Fanny Chauvet sont à retrouver sur notre site l'autreradio.fr. C'est l'heure de la rubrique Initiative avec Claire, qui est dernier jour donc pour participer au financement d'un documentaire en Mayenne qui s'appelle Vent debout.
Et oui, Noémie Guédet a réalisé un film sur les énergies alternatives de Mayenne et a lancé un financement participatif. Le documentaire retrace l'évolution de la prise de conscience écologique, responsable et citoyenne dans la région depuis les premières mobilisations en 2000 jusqu'à aujourd'hui. La cagnotte est importante car elle permettra d'acheter notamment des archives de l'INA pour compléter le documentaire. Pour participer, rendez-vous sur le site KissKissBankBank et tapez Vent debout. Vous avez jusqu'à ce dimanche 14 mars.
Et ce week-end, on participe à un semi-marathon.
Et oui, on court ce week-end pour l'association Vaincre la mucoviscidose, pardon. Un parcours est défini de 21 km, un semi-marathon. Vous avez jusqu'à ce lundi 15 mars, pardon, pour communiquer vos chronos en photo à l'adresse mail semirun, sobhi@glx.fr, adresse compliquée mais importante. Un classement sera ensuite publié. Il y a aussi une cagnotte en ligne à retrouver sur le site de l'association.
Et oui, c'est peut-être le plus simple, hein, si on n'a pas eu le temps de noter l'adresse mail en entier, d'aller sur le site de l'association. Merci beaucoup Claire, en tout cas, pour ces initiatives. Si vous voulez partager les autres, ou évidemment on ne peut pas tout recenser, parler de tout à chaque fois, donc n'hésitez pas à vous à transmettre vos initiatives, que ce soit via Facebook, Twitter ou sur notre répondeur au 09 70 40 54 40. Merci beaucoup Claire, bon week-end.
Merci Marie, merci tout le monde, bon week-end, à lundi.
Et à lundi, bien sûr, à lundi pour le retour de l'AJT du local, mais à l'antenne, évidemment, vos émissions préférées se poursuivent, puisqu'à 20h, il y aura Passe-moi le thème, consacré aux chansons des albums minimalistes, composés d'une ou deux couleurs et d'un graphisme très épuré. Si, si, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et on se retrouve, évidemment, comme l'a dit Claire il y a quelques secondes, lundi à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée et un beau week-end.
Reportage,
invité, interview.
Voilà, c'est l'agité du local.